Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Les gens qui habitent sont dans l'ensemble des gens pauvres mais qui se tiennent, qui ont encore un peu de travail. Les familles et il y a des personnes âgées. Les loyers sont restés pour Paris à côté des autres quartiers rénovés, corrects. Et pour la plupart, ce sont des gens qui habitent depuis de nombreuses années. Il y a même des personnes qui ont toujours habité le même logement et ce logement était déjà loué par leurs parents. La vie du quartier y est paisible. Et encore, des petits commerçants, artisans qui essayent de vivre par ces temps difficiles. Dans une petite rue, étroite mais propre, aux immeubles gris de 4 ou 5 étages, avec quelques commerçants. La rue, la chaussée est pavée. Il y a quelques voitures garées.
Irène !
Nous allons rentrer.
Enfin !
T'es enceinte ?
Je suis ici chaque jour, depuis des années.
De ces immeubles. Nous sommes en mai. Il y fait frais. Le soleil commence à se lever, les 7 heures du matin. Donc, je disais que nous allons rentrer dans un immeuble de 4 étages, sans âge, gris. On va pousser la porte de l'allée, qui est en bois peint, marron foncé. L'immeuble n'a pas d'appareil de sécurité, Jean interphone.
Enfin, je viens ici chaque jour, depuis des... Je reviens du palais.
L'allée est étroite et sombre. Le plafond est haut, où pend un lustre en verre blanc. Le sol est en pierre usée. Les murs sont peints en crépi beige. À gauche, les boîtes aux lettres, neuves, en bois beige. Petit escalier de pierre avec rampe en métal peint en vert. Les marches sont usées. Entre les deux étages, il y a une fenêtre qui donne du jour à l'allée. L'allée est fraîche, mais ne sent pas mauvais comme certaines allées. Chaque étage a un palier, deux portes sur le palier, deux portes palières en bois marron. Entre les deux portes, des petites fenêtres hautes qui permettent d'aérer les WC. Les portes se trouvent aux deux extrémités du palier. Une lampe au plafond dans un lustre blanc. Nous arrivons au deuxième étage. N'allons pas aller plus loin. Il y a encore deux étages et le grenier. Deuxième porte droite. Pont sans sonner. Pas de bruit dans l'appartement. Il y fait sombre. Les occupants doivent encore dormir. Petit couloir un peu sombre, avec à droite une armoire en bois qui doit servir de penderie pour mettre les vêtements lorsqu'on arrive. L'armoire n'a qu'une porte. Les murs sont toujours beiges. Le sol, c'est des carreaux gris et beige. Il y a quatre portes dans le couloir. La face de l'armoire, à gauche, se trouve la porte de la cuisine. C'est une cuisine tout en longueur. Oui, c'est une cuisine tout en longueur. En face de la porte se trouve une fenêtre qui donne dans la cour. Une petite cour étroite entourée d'immeubles avec des poubelles et un petit arbre à bout gris. La cuisine est meublée en meubles de bois sapin naturel. Tout est propre, bien rangé. Même pas une assiette sur l'évier. Sortons de la cuisine. Allons ouvrir une porte qui est à côté de l'armoire. Elle est à côté de l'armoire en face de la cuisine. C'est une petite salle d'eau étroite et blanche. Là aussi, rien ne traîne. Décidément, nous sommes tombés sur des gens bien propres. En face de la salle d'eau, ouvrons une porte. Bon, c'est les WC. Propre et rose. Ils ont une vieille chasse d'eau en fonte, en hauteur. Il va peut-être être très soigneux. Bon, sortons de ce coin intime. Allons ouvrir une porte qui est en face de la porte d'entrée de l'appartement. C'est un salon. J'en cuir, cuir beige. Pour les fauteuils, table de verre, un buffet en bois, chêne, deux grandes fenêtres, quelques tableaux, des bibelots sur le buffet, rideau aux fenêtres. La pièce est grande, parquet à terre et tapisserie beige. Sortons de la pièce. Il y a deux autres portes, l'une en face de l'autre. Ouvrons celle de droite. Il y fait sombre. C'est une chambre. Grande armoire à deux portes. Table de nuit. Vêtements sur une chaise. Le lit semble en désordre. Oh, pardon. Il y a quelqu'un. Ou plutôt deux personnes qui dorment dans le lit. Retournons. L'autre pièce. Allons voir ce que c'est. Mince, c'est une chambre. Une chambre de jeûne. Meuble sapin blanc. Lit à une place. Contre le mur, une armoire à une porte. Petit bureau. Chaise. Il y a des rayonnages sur les murs, bocal grise à terre, mur peint blanc. Il y a quelqu'un dans le lit. La poitrine nue, découverte. Allongé sur le côté, sa tête repose sur son bras. L'autre, sous les draps, ses cheveux blonds sont ébouriffés. Le visage juvénile, petit nez, lèvres rouges. Le voilà qui fait la grimace. Attention, il va se réveiller. Vite, sortons. Il est trop tard. Il ouvre les yeux. Nous ne pouvons pas sortir. Pas quitter la pièce. Il se demanderait pourquoi la porte s'est refermée d'elle-même. Tant pis. Le sort en est jeté. On ne peut pas. Il faut rester ici. La lumière du jour qui passe par les persiennes nous permet de voir le bleu profond de ses yeux. Il a l'air d'être très jeune, peut-être 12-13 ans. Il se lève. Il est nu. C'est un enfant, grand, mince, le corps bien fait. Il va à une chaise qui est près de son bureau. Pour mettre sa robe de chambre, beige, en coton. On a frappé à la porte.
Alexis, tu es réveillé?
Oui, mère. Je viens. Il fait mine de mettre sa robe de chambre. Ses chaussures. Et sort de sa chambre. Mère est là, dans le couloir, habillée d'une robe simple à fleurs à dominance bleue. C'est une femme grande, mince, même un peu maigre. Elle a les cheveux mi-longs, pendant blonds, le visage un peu triste, yeux bleus profonds comme son fils et le front haut. Alexia branche sa mère sur la joue. Elle lui dit, allons prendre le petit déjeuner. Et ils vont à la cuisine pour prendre le petit déjeuner. Là, il trouve le père d'Alexis qui est déjà assis à table. C'est un homme grand, fort, le visage rond, les cheveux gris, l'air là. Il est habillé d'un t-shirt bleu marine et d'un pantalon de toile beige. Il a les cheveux gris aussi. Bonjour père.
Bonjour.
Il s'assoit. Et la mère sert le café. Tout en buvant, elle demande « Tu accours à quelle heure ?»«
9h30 ce matin. »«
Tu pourras m'aider à porter le linge chez Madame Dupuis ?» Le père dit « Le magasin ferme aujourd'hui. Pas assez de commandes. » Sa femme le regarde et lui demande « Alors que vas-tu faire ?» Il lui répond « Je vais aider Armand à réparer sa voiture. » La mère soupire et dit pourvu qu'il ne ferme pas.
Je ne crois pas, parce qu'on a comme client les francs blancs.
Sa femme soupire et se lève.
Son mari lui dit non, laisse, j'ai le temps, je le ferai.
Elle lui dit, merci, bien. Viens Alexis, on va livrer le linge à Madame Dupuis.
Et ils sortent de la cuisine. Alexis va à sa chambre pour s'habiller.
Il ne change d'habit qu'une fois par semaine, par économie. Il enlève sa robe de chambre. Une fois dans le couloir, la mère sort de la salle d'eau. Elle sort avec un gros cajot en plastique plein de linge. Alexis va vers elle, prend le cajot. Elle lui dit, non, laisse, il est trop lourd pour toi. Prends seulement la moitié avec moi. C'est ce qu'ils font. Ils portent à moitié et sortent de l'appartement.
Monsieur Rodin n'a pas pu y rester insensible. La preuve en est que lorsque j'ai rencontré le directeur des Beaux-Arts, il croyait que j'avais été mis sur le
chercheur. Et ils sont sortis de l'immeuble. Il fait plein jour, le soleil est là, mais il fait encore frais. Les rues commencent à s'animer. Les commerçants ouvrent leurs boutiques. Les gens sortent de leurs immeubles. Elle tient bien ce quartier. Il y a un côté sympathique, bon enfant. Les gens se connaissent tous, sont simples. Il n'y a pas d'histoire. Si pour les gens de passage, le quartier ne fait pas très bonne mine, il y a à cause de ses habitants un côté agréable, même frais. On se sent bien malgré la misère. Ce n'est pas une misère horrible. C'est une pauvreté plutôt. Il y a quelques commerçants où, et au bout de la rue, un square comme avant qui se marie bien au quartier. Alexis aime bien être ici, il se sent bien.
Bonjour.
Il a toujours vécu dans cette rue et ne souhaite pas habiter ailleurs. D'ailleurs, il n'est jamais sorti, sauf pour des raisons indispensables, de ce lieu de Paris. Les grands boulevards, les beaux menuvants lui donnent le vertige. Je sens mal à l'aise. Ceci ne veut pas dire qu'il n'ait pas d'ambition. Il ne veut pas une bonne situation et que ses goûts ne soient pas des goûts sans profondeur. Non, il est très bon élève d'un petit collège où il est. Il voudrait se faire un métier scientifique. Il aime aussi beaucoup lire et la peinture. Mais il ne se sent pas vivre autrement que dans ce petit coin de Paris comme maintenant.
Paris.
Sa mère, Denise, a 38 ans. Elle a toujours vécu comme ça. Elle fait les ménages chez les uns, les autres. Elle n'a pas de diplôme. Ses goûts sont simples, elle aime les fleurs, son appartement, rêve d'une belle maison. C'est une bonne ménagère qui vit
fusilleux.
Et n'aime que sa famille.
Fusilleux.
Madame Dupuis habite au bout de la rue. Elle est si soupire et dit
Pourquoi est-ce que tu fais son linge chez nous? Tu pourrais le faire chez elle. Ta mère lui dit, tu sais très bien que dans la journée, il y a des coupures d'électricité et je ne peux pas passer la soirée chez Madame Dupuis. Bonjour, monsieur. Il y a dans la rue un petit atelier de menuiserie, un ancien magasin. L'intérieur est sombre, étroit, il y a des planches de partout. La poussière, l'odeur, la sciure, un bruit infernal. Contre la vitrine se trouve un petit bureau du secrétaire. Chaque fois qu'il passe devant cette vitrine, devant cet atelier, Aliti se penche pour regarder à l'intérieur. Parce qu'un matin, il a vu que sortait de l'atelier un jeune monsieur, un jeune garçon plutôt, habillé d'un bleu de travail bleu. Il était en short. Ce jeune devait avoir dans les 22 ans. Un trouble étrange à Alexis. Le garçon était de taille moyenne, les jambes minces comme celles des enfants. La sueur était collée dessus sur son visage. On voyait que ses jambes avec quelques poils blonds, presque du duvet. Le jeune homme avait un visage allongé, le front rond, un petit nez, les yeux bleus profonds, cheveux blonds qui ondulent légèrement, de petites oreilles. Son visage ressembla à Alexis d'une beauté extraordinaire, mais d'une beauté pure. Il avait les caractéristiques des Bretons ou des gens du Nord. Alexis ne l'a vu que quelques secondes et leurs regards se sont croisés. Mais Alexis ne sait pas pourquoi, sans arrêt, s'arrête devant l'atelier. Il a été ébloui par le visage et troublé par ses jambes. Des fois, passant, il lui arrive, mais très peu, souvent, de le voir dans l'atelier ou près de l'atelier. Alexis, troublé, n'ose pas le regarder. Il ne s'arrête pas. Il se dit que le jeune homme ne peut-être jamais vu, ne l'a peut-être jamais vu. Tellement il passe vite lorsqu'il est près de lui.
Lorsque les gens intimident la Betsy, ils n'osent pas les voir. Et pour le jeune homme, il n'ose pas le voir, il n'ose pas à se faire remarquer par lui. Parce qu'il se sent malgré lui, il sent malgré lui, qu'en le voyant, il y a un trouble étrange. Et ce trouble indéfinissable lui fait honte. Et qu'il ne veut pas que l'on sache, que les autres sachent et voient celui qui est la cause de ce trouble étrange. Mais Alexis ne pense au jeune homme que lorsqu'il passe devant l'atelier et des fois dans la rue. Rêve pur et sensation étrange. Parce qu'il aimerait, comme dans ses rêves, s'approcher de lui. Ils entrent dans une allée qui ressemble à celle de son immeuble. Madame, Dupuis habite au troisième étage. Ils arrivent essoufflés à l'étage. La mère va sonner à la porte de gauche. La porte est ouverte. Une femme grande, maigre, visage dur et osseux, cheveux blancs à chignons. Elle porte une robe noire et a une canne. Ah, vous voilà ma fille. Bonjour madame. Bonjour. Elle les laisse entrer. Allez dans la salle de bain, s'il vous plaît. Ils y vont. En suivant un long couloir qui sent la naphtaline et la lavande. La mère ouvre une porte. Et dépose à terre le cajou. Puis sort. La femme leur dit, vous allez faire les courses maintenant. C'est mardi. Mais madame, la femme sort de sa poche une note sur une feuille de papier et la lui tend. Tenez. Merci. Ne revenez pas trop tard. Il y a le linge à repasser. Oui. Et la mère et le fils sortent de l'appartement.
Une fois dehors, Alexis dit à sa mère, « Comment peux-tu supporter une femme pareille ?» Sa mère lui dit, « Il le faut bien, parce qu'elle nous paye bien. » « Oui, est-ce quelle façon de te traiter ?» Sa mère lui dit, « C'est pas sa faute. Elle a été élevée comme ça. Et puis, elle a eu beaucoup de malheur dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle faisait ?» Il paraît qu'elle a eu un poste très important, de haute responsabilité dans une entreprise. Mais maintenant, elle vit que d'une retraite et de ses rentes. Parce qu'avant sa retraite, de prendre sa retraite, elle a fait une bêtise énorme. Alors pour la punir, on a diminué sa retraite. Et maintenant elle habite ici. Mon fils lui dit, elle devrait comprendre qu'elle n'est plus rien. La mère lui dit, c'est pas facile. Et puis, il faut s'estimer heureux qu'elle me donne du travail. Parce que si ton père se retrouve au chômage, Alexis lui dit, oui. Sa mère lui dit, bon, je vais à l'épicerie. Quand tu vas au collège, à tout à l'heure. Et il quitte sa mère.
Bonjour, monsieur Lima.
Il n'a pas de cartable parce que ce matin, il y a gymnastique et qu'il a déserté ses vêtements au collège. Le collège se trouve à 5 minutes de chez lui. Alexis est bien noté et sa mère est tout contente pour lui. Alexis est bien noté parce qu'il s'est fait remarquer pour la bonne tenue de ses cahiers. La journée continue. La mère d'Alexis, en plus, fait des ménages. En plus de la vieille dame, elle va dans d'autres maisons. Des fois, c'est dans d'autres quartiers. Dans des beaux quartiers de Paris. Elle est obligée, c'est de prendre le métro pour y aller. Ce n'est pas facile et c'est long. Le soir, lorsqu'elle a fini sa journée, elle est épuisée. Elle a encore à s'occuper de chez elle et de sa famille. Mais comme sa seule joie, c'est d'avoir une belle maison, alors elle frotte, nettoie, range. Des fois, comme son mari sait qu'elle aime les fleurs, il lui en achète au marché. Le père, Jules Prudent, le lendemain est retourné à son travail. Il travaille dans une petite quincaillerie grossiste, dans une rue plus loin. Au fond d'une cour. C'est sombre. C'est sale. Le travail est pénible. Il faut beaucoup de manutention. Il y a des grilles de regard en fonte. C'est lourd et sale. En fonte rouillée. Il est très mal payé. travaillent une fois le matin, une fois l'après-midi. Font la pause café avec les autres. Ce sont des gens simples qui ne parlent que de l'auto, tiercé et filles. Jules parle peu, il n'aime pas leur conversation. Le soir, il rentre chez lui, fourbu, sale. La première des choses qu'il fait, c'est d'aller à la salle d'eau prendre une douche. Puis, il trouve à la cuisine sa femme. Il s'assoit et prend son journal. Des fois, quand sa femme rentre tard, il prépare le repas du soir. Une fois que le dîner est pris, la famille, avant d'aller se coucher, va faire ses occupations. La mère nettoie et range. Alexis, dans sa chambre, étudie. Le père va au salon, va lire un vieux livre. Ils ont une vie triste et monotone, mais ça ne les ennuie pas. Lorsqu'ils se couchent, ils sont épuisés. Leur vie sexuelle, et puisqu'il en faut, est presque juste ce qu'il faut. Ce qui les unit, ce n'est pas ça, mais leurs sentiments, leur entente. Lui, dans son lit, s'amuse à s'imaginer des aventures, mais sans y croire. Depuis quelque temps, ces aventures sont, disons, sont teintées de drôles de choses. Inconsciemment, son corps s'éveille, en plus, à la sexualité, à la sensualité plutôt. Non plutôt son corps, mais celui des autres. Prenez celui des autres qui prennent plus de place. Mais cela reste pur. Comme pour le jeune menuisier, et il ne s'en rend pas vraiment compte. Les voisins sont comme eux, des gens simples, sans histoire, pauvres, mais travailleurs, et font des petits boulots. Le quartier, comme ils le disent, et calme. Mais des fois, sous la nuit, on entend le bruit des émeutes, bagarres, qui se passent dans les autres quartiers. Même des fois, on voit de la fumée et des flammes. Les gens ont peur que ça vienne jusqu'à chez eux. Thank you. Lorsque Jules va au café, avant d'aller à son travail, un petit café populo, genre années 50, sombre et qui sent le vin bon marché. Le café se trouve à côté de son travail. Il y a quelques vieux qui jouent aux cartes. Jules se met au comptoir. Le patron, qui est un gros homme, cheveux et moustache grise, tablier bleu, chemise, sous une chemise blanche, lui sert un demi. Le bistroquet lui dit: t'as entendu cette nuit? Je lui dis: oui. Le bistroquet lui dit: tout ça c'est la faute au gros. Les gens, on a assez du chômage. Ça fait depuis 74 que ça dure. Et nous sommes en 2020. Je lui dis: ouais, c'est vrai. Il y en a marre. Il y a de plus en plus de misère dans les rues. Des clodos sont de plus en plus nombreux. Des putes. Ça fait les poubelles avec les rats et les chiens. Ces pauvres gens. C'est dégueulasse. Il est vrai que la misère, la grande misère, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.